Radio Tamani, voici nos informations en français.
Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres de ce journal. Le ministre de l'Éducation nationale a rencontré ce matin les enseignants signataires du 15 octobre 2016. Objectif, trouver un terrain d'entente avant la rentrée prochaine. Selon les syndicats, tout dépendra de l'aboutissement des négociations. La libération de sœur Gloria Cecilia Narvaez est accueillie avec joie dans le village de Karangasso où elle était missionnaire. Les temps forts de cette libération dans ce journal. Un atelier de relecture des textes juridiques et réglementaires des médias a débuté ce matin à Bamako. Durant 4 jours, les professionnels des médias vont réfléchir sur comment améliorer les conditions de travail des agents du secteur au Mali. Je suis Amsitou Touré à la présentation, à la mise en onde, Salim Djouara. Réflexion autour des défis de l'école au Mali. Le ministère de l'Éducation nationale a convié ce lundi en réunion les secrétaires généraux des syndicats d'enseignants et alliés. Objectif, échanger sur le bilan de l'année 2020-2021 et les préparatifs de l'année 2021-2022. Les enseignants grévistes présents aux échanges disent rester sur leur garde jusqu'à l'aboutissement des discussions. Aïssata Diarra était sur place. Voici donc son compte rendu.
Environ 14 syndicats d'enseignants étaient présents à cette rencontre. Nous voulons faire de cette rentrée une rentrée inclusive, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, Sidibé Dédéou Ousmane. Selon elle, le gouvernement fait le nécessaire pour dissiper les malentendus qui planent sur l'école malienne avant la reprise.
Nous avons noté en tout cas beaucoup de propositions positives qui vont dans le sens de l'amélioration même du système éducatif malien. L'espoir est là. Et je les ai rassurés également que le gouvernement est prédisposé et a les portes grandement ouvertes pour accueillir les enseignants actuellement, notamment ceux de la Synergie qui sont en grève, pour pouvoir négocier avec eux et trouver une solution à leurs préoccupations d'ici la rentrée.
Après plus de 2 heures de discussion avec le ministre de l'Éducation, les syndicats signataires du 15 octobre 2016 disent rester vigilants. Selon leurs membres, tout dépendra de l'aboutissement des négociations. Amadou Koulibaly, membre du syndicat national de l'éducation des bases.
Quant à mon syndicat, nous avons dit pour que l'école puisse être effective, il faut que le gouvernement et les syndicats signataires du 15 octobre 2016 se retrouvent pour qu'on puisse reprendre les négociations. Nous, les enseignants, nous ne sommes pas contre par rapport à l'ouverture. S'il y a terrain d'entente, nous allons rentrer en classe. Dans le cas contraire, nous allons voir ce que nous pouvons faire.
En attendant, nous vous rappelons que la reprise des cours au compte de l'année scolaire 2021-2022 est prévue pour le 1er novembre 2021.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je l'annonçais dans les titres, sœur Gloria Cecilia Narvaez a été libérée ce week-end après plus de 4 ans et demi de captivité. L'annonce de sa libération a été accueillie avec joie dans le village de Karangasso où elle était missionnaire depuis plus de 6 ans. Selon le curé de cette paroisse, abbé Olivier Zerbo, chrétiens et musulmans étaient tous en communion pour sa libération. Il est au micro de Ali Aïdara.
Nous avons fait sonner la cloche de l'église pour annoncer la bonne nouvelle à tous les paroissiens. Et aussitôt, nous sommes rassemblés à l'église pour une action de grâce spontanée. En tout cas, le monde est sorti, chrétien comme autre religion, pour chanter les louanges à Dieu pour sa bienveillance, pour cette libération. L'ambiance dans le village, en tout cas, est bien, est sereine. Nous sentons vraiment la joie de tout le monde, pas seulement les chrétiens, mais vraiment de toute la population. Et nous avons accueilli l'imam après la messe aujourd'hui, qui est passé pour nous saluer et pour prendre, s'enquérir un peu des nouvelles, pour dire que vraiment ils étaient tous en communion de prière pour la libération de la sœur.
Autre sujet, les travailleurs de l'Institut national de santé publique étaient en sit-in ce matin à Bamako. Ils sont sortis pour manifester leur mécontentement face au non-paiement de leurs ristournes et leurs reliquats du fonds Covid. Ces agents demandent que leurs doléances soient prises en compte au plus tôt. Boubacar Dembélé, membre du syndicat des travailleurs de l'INSP, est au micro de Khalifa Guita.
Depuis le dernier trimestre 2018 jusqu'à nos jours, les travailleurs n'ont pas perçu de ristourne. On fait face toujours à des promesses. Le président Assimi Goïta avait instruit de payer tous les travailleurs avant le 22 septembre. Et nous sommes au 11 octobre. Les fonctionnaires qui sont sur les fonds propres de l'INSP ne sont pas encore payés. Le second problème, c'est quoi? C'est les primes et les émoluments Covid. C'est le gouvernement qui alloue des fonds à l'INSP. Maintenant, nous sommes à 3 mois d'impayés. L'ancien directeur qui était là nous payait les émoluments liés à Covid. Mais le directeur dit qu'il ne veut pas signer parce qu'il n'y a pas de texte en rapport à cela. C'est après qu'on ait sorti une note concernant les sitting qu'ils nous appellent, qui sont en train de s'atteler à faire des notes de service. L'air n'est pas à cela. Que les autorités comprennent qu'il y a problème ici à l'INSP. On n'aime pas ces sittings-là puisque ça déshonore notre service.
Nos sollicitations pour faire réagir la direction de l'INSP concernant ce sujet n'ont pas abouti. Déscolarisation, mariage précoce, exploitation sont entre autres dangers auxquels les filles sont exposées dans la zone de conflit au Mali. Au nord et au centre du Mali, les acteurs en faveur des droits des enfants regrettent que les conditions des filles continuent de se dégrader. À l'occasion de la Journée internationale des filles, ils s'expriment sur la question. Ali Cissé.
Les responsables des jeunes leaders pour le développement des Gao regrettent que l'insécurité ait contribué à la dégradation des conditions de vie des filles dans la région. Aramata Abdraman évoque notamment la prostitution et la déscolarisation des filles.
Elles vont à l'école, celles des zones urbaines, mais celles des zones rurales sont victimes de manque d'éducation. Et cela est surtout dit aux conditions de vie de leurs parents. Elles sont très souvent victimes de mariages précoces, aussi bien dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains.
À quelques kilomètres de là, au centre du pays, à Ségou, la situation est tout autre. 60% des filles sont scolarisées dans la région, estiment des organisations locales. Cependant, le maintien de ces filles à l'école reste un défi, déclare Mme Koulibaly Mariam Kouyaté, présidente de l'association Djigia, point focal du réseau Ouassa.
Nous avons plus de 60% des filles qui sont scolarisées. Nous sommes face au problème de maintien. Comment faire pour les maintenir à l'école afin qu'elles aient des diplômes pour échapper à beaucoup de choses et pour relever le défi auquel nous sommes confrontés. Je pense que le maintien des filles à l'école, c'est un moyen efficace de lutte contre le mariage précoce.
Les bénéfices de la scolarisation des filles sont pourtant avérés et profitent à toutes et à tous, estime l'UNICEF. Une fille scolarisée peut facilement sortir de la pauvreté, ajoute-t-elle.
Les travaux de relecture des textes juridiques et réglementaires des médias ont débuté ce lundi 11 octobre 2021 à la Maison de la Presse à Bamako. Ils visent à mettre en place des textes qui régissent désormais le métier du journalisme au Mali. Pour certains participants, les conclusions de cette rencontre permettront d'améliorer les conditions de travail des hommes de médias dans le pays. Les détails avec Aboubakri Ag, Mohamedine Yatara et Sita Sidibé.
Nos textes datent des années 2000, elles ne sont pas trop conformes aux réalités du monde actuel, affirme le président de la Maison de la Presse. Pour lui, durant cette rencontre, les acteurs de la presse sont appelés à mettre en place des textes forts pour lutter contre la désinformation et redorer les blasons du journalisme. Bandjougou Danti.
Ensemble, nous pouvons faire des propositions, des textes qui puissent désormais régir notre activité, notre travail. Parmi ces textes, nous avons d'abord le statut de journaliste. Nous avons aussi la dépénalisation des délits de presse. Il s'agit de faire en sorte qu'un journaliste n'aille plus en prison pour ses opinions, pour ses écrits, et que désormais, à la place de la prison, qu'il y ait des sanctions pécuniaires.
Certains participants saluent cette initiative qui, selon eux, est une opportunité de révaloriser ces beaux métiers. Aïcha Touré, directrice de l'information du groupe Liberté.
Pour nous, cet atelier est super important parce que ça permet vraiment qu'on puisse voir en fait les difficultés que nous avons. Et c'est l'occasion pour nous de vraiment exposer ces difficultés aux autorités. Et avec cette période de transition, on en profite tout simplement. Donc pour moi, ça va changer énormément de choses.
Après 4 jours de réflexion sur ces textes, ils seront sur la table du Conseil national de transition pour approbation.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. L'importance de la révision annuelle des listes électorales RAL a été expliquée hier aux associations de femmes de Bafoulabé. L'activité a été initiée par l'Association pour le développement inclusif de la femme malienne ADEFIM. Son objectif est d'amener les femmes à s'impliquer dans la campagne de sensibilisation sur la révision annuelle des listes électorales. La révision prend fin le 31 décembre 2021. Comment lutter efficacement contre la vente illicite déficit des médicaments. La question était au centre d'une rencontre organisée vendredi dernier à Yorosso. Elle a regroupé plus d'une vingtaine de représentants de l'ordre des médecins et des infirmiers, des propriétaires de dépôts de vente de médicaments, des représentants de la société civile et des élus locaux. Des recommandations pour mieux lutter contre ce fléau ont été faites au cours de l'atelier. Il a été organisé par le district sanitaire de Yorosso. À présent, nous recevons Mouamadou Touré pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mouamadou.
Bonsoir Amsetou Touré.
Quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Campagne agricole et faible pluviométrie, que faut-il craindre cette année? Et nos invités sont Moussa Sidibé, chef de bureau statistique et suivi évaluation à la Direction nationale de l'agriculture, Madame Goïta Maïmouna Traoré, présidente de l'association Cotonou-Rontala de Koutchala, et Nadramé, agricultrice à Sofara.
Merci Mouamadou et bon débat. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal, mais restez à l'écoute dans un instant. La question A. Chaque 10 octobre est célébrée la Journée mondiale de la santé mentale, un événement qui vise à sensibiliser le public sur la maladie. Au Mali, la santé mentale reste une préoccupation majeure. Pour les psychologues, les personnes atteintes de cette pathologie peuvent être soignées et réinsérées à condition de bénéficier d'une prise en charge effective. Ainsi, ils estiment qu'il faut plus de centres d'accompagnement de déficients mentaux. Au sein de la population, on regrette non seulement l'absence d'une volonté politique de la part de l'État, mais aussi que ces personnes soient laissées à eux-mêmes dans la nature. Plus de détails avec Ousmane Alibouli.
Les psychologues expliquent que la principale cause de la maladie mentale est due à l'incapacité de l'homme à faire face à certaines situations. Professeur Suleiman Koulibaly, psychologue clinicien au service psychiatrie du CIAS Ipongé.
Quand certaines situations viennent et que nous n'arrivons pas à mieux nous maîtriser dans ces situations, ça peut entraîner ce qu'on appelle la décompensation. Ça veut dire que nous allons adopter des comportements inappropriés et qui peuvent aller jusqu'à la maladie mentale.
Le professeur Koulibaly affirme que les facteurs déclencheurs de cette maladie sont multiples.
Il y a les facteurs de stress. Il y a également les conflits qui opposent les uns et les autres. Dans le foyer surtout, il y a aussi des facteurs génétiques. Si la personnalité est fragile, elle également peut être un facteur. Il y a d'autres facteurs exogènes tels que la consommation des substances toxiques.
Il est facile de constater des patients atteints de troubles mentaux, parfois majeurs, errant dans les rues. Selon des observateurs, cette situation s'explique par le manque de politique nationale de prise en charge de ces malades. Les populations dénoncent que ces personnes soient livrées à elles-mêmes.
Très généralement, les membres de la famille ont honte de présenter une personne qui a des problèmes mentaux.
Normalement, la famille ne doit pas le laisser balader là où il veut. Il doit l'interner à la maison ou bien l'envoyer dans l'internat là où on interne les fous.
Dans la majeure partie, leurs familles n'ont pas assez de moyens pour pouvoir les encadrer. Maintenant, le gouvernement peut aider ces familles-là.
Je dirais que c'est surtout le rôle de l'État qui est engagé vis-à-vis de ce genre de maladie, parce que l'État peut avoir le moyen de créer des centres.
On peut complètement guérir de cette maladie, explique le psychiatre, avant d'ajouter que la prise en charge se fait par plusieurs voies.
Oui, la maladie mentale peut être guérie. Le traitement, on va dire médicamenteux, et le traitement par psychothérapie. On va agir sur le psychisme, par des conseils, par le comportement, pour l'aider à se retrouver. Mais on utilise les ressources socioculturelles, comme on fait recours au côté bas.
Professeur Koulibaly prodigue des conseils aux familles des malades.
Il vient, on le soigne, il retourne en famille, il est encore fragile. La famille doit tout faire pour consolider cette compensation. On doit mettre des facteurs de protection de ces personnes-là, et non ces facteurs dénigrants.
Aucune statistique n'est pour l'instant disponible sur le taux de prévalence de la maladie mentale au Mali. Cependant, selon des spécialistes, cette pathologie peut se manifester chez tout le monde si les facteurs de risque cités auparavant sont suffisamment réunis.